RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, la radio RMC Story, la télé. Si vous avez raté la première heure des grandes gueules, elle est déjà à disposition sur le podcast et sur l'appli RMC ou notre site internet rmc.fr. Et les podcasts, c'est à la fois toutes les discussions des GG durant l'émission et puis les coulisses. Et là, on avait une discussion très intéressante sur les ragondins.
On a appris des choses. Hein.
Oui, oui. Ah oui. Sur les ragondins qui sont dans le bois de Boulogne, voilà. Qui sont dans l'eau, dans les lacs du bois de Boulogne, ici à quelques encablures d'ici.
Il y en a qui aiment aller au bois de Boulogne pour voir des ragondins.
Ou qui tombent sur des ragondins.
Voilà, on dira.
Donc,
pas
je vous laisse découvrir ça.
J'ai fait un petit point d'éthologie, parce que, évidemment, tout le monde faisait des blagues salaces. Moi, j'ai fait un point d'éthologie très important sur le ragondin.
Si vous voulez aller au parc d'attractions Europa Park, c'est très simple. Vous avez un séjour de 2 jours pour 4 personnes. L'Europa Park a été élu 10 fois meilleur parc de loisirs du monde. Vous avez les spectacles, vous avez tout le nouveau quartier thématique dédié à la principauté de Monaco. Vous avez le parc aquatique. Et pour gagner, il suffit d'envoyer Europa par SMS au 73216. Europa par SMS au 73216. Le parc d'attractions Europa Park vous attend. À vous de jouer, à vous de gagner. On va revenir maintenant avec les GG, avec Abel Boye, Bruno Poncé et Barbara Lefebvre sur la manifestation contre le racisme et les discriminations qu'il y a eu samedi à Saint-Denis, à l'initiative de la nouvelle municipalité et du maire Bali Bagayoko. 6000 personnes ont défilé.
Oui, réunies contre le racisme, en soutien à Bali Bagayoko et à l'appel de la France Insoumise, après les propos qui ont été tenus sur la chaîne CNews. D'ailleurs, le parquet de Paris a indiqué qu'il avait ouvert une enquête pour injure publique en raison de l'origine, de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion. Il y a également le préfet qui s'est constitué partie civile, comme l'avait demandé le Premier ministre Sébastien Lecornu. Alors hier, en fait, ça s'est transformé surtout en meeting pour la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon qui était sur place. Ça a dérapé puisqu'une journaliste de BFM TV a été brutalement projetée contre des barrières par un membre du service d'ordre de la France Insoumise. Il y a eu aussi des propos pour le moins litigieux, notamment la députée insoumise Nadège Abou-Mangoli qui a pris la parole et qui a accusé la police de racisme en dénonçant un racisme d'État et des violences policières qui visent toujours les mêmes, les Noirs et les Arabes. Là, on attend une réponse de Laurent Nunez, de ministre de l'Intérieur, voir s'il va défendre quand même sa corporation. Et d'ailleurs, le SOS Racisme a été pris à partie, le Parti Socialiste également, donc ce qui était au départ une marche contre le racisme s'est un peu transformé en une démonstration politique de la France Insoumise.
Est-ce que ça a dérapé, Bruno Poncet ?
Déjà, c'est pas une marche, c'est un rassemblement. Déjà, une marche, quand un rassemblement, t'es statique. Donc quand t'es statique, il n'y a pas de marche, Olivier. Mais bon...
On peut jouer sur les mots si tu veux.
Non, c'est vrai, parce que ça serait une différence en fait. Si tout le monde avait bougé, c'est pas pareil. Après, pour faire du maintien de l'ordre quand tu bouges, c'est un peu plus différent que quand tu fais du maintien de l'ordre quand ça bouge pas. Après, moi je sais pas si ça a dérapé, mais ce que je vois quand même, c'est que d'un samedi de Pâques, il y avait du monde. Après 6000, on peut se glosser qu'il n'y ait pas grand monde. Il y a déjà du monde. Et je trouve ça intéressant, moi, que les gens ne soient pas heureux qu'un maire noir d'une ville de 100 000 habitants soit traité de primate. Et qu'on écorche son nom, son prénom, ça parce qu'il est noir. Je pense qu'il y a un vrai sujet, en fait. Et donc, c'est très intéressant que les gens soient là pour ça. Après, déraper. Oui, effectivement. Moi, je trouve pas ça très, très bien de s'en prendre aux journalistes. Vaut mieux peut-être porter plainte contre la chaîne pour laquelle ils travaillent quand elle laisse passer des informations erronées ou quand l'intervieweuse dit le peuple des Noirs, alors que c'était pas la ville des Noirs, alors que c'était pas ça. Dans ce cas, tu portes plainte. Tu vas pas secouer la journaliste, la pauvre. Surtout que souvent, dans ces trucs-là.
Il y a un racisme d'État en France.
Je sais
parce que
pas
c'est peut-être les propos les plus graves sont tenus par une députée de la République.
Elle parlait de la police, elle plutôt.
Non, elle dit racisme d'État et des violences policières qui visent toujours les mêmes, les Noirs et les Arabes. Donc en gros, les policiers sont racistes.
Mais après,
En essentialisant,
malheureusement. Alors après, on verra. Moi, je sais pas si on peut toujours dire ça. Parce qu'en fait, comme partout, t'as des brebis galeuses qui certainement le sont, et puis t'en as d'autres qui font leur taf normalement, et qui, moi, pour en côtoyer, m'ont jamais tenu de propos racistes. D'ailleurs, ils sont des fois de couleur un peu différente de leurs collègues, et en fait, ils ont pas cette impression-là. Par contre, oui, certaines choses se passent en France, où en fait, c'est très compliqué, certainement pour des gens venant de quartiers ou ayant une couleur différente. Mais moi, pendant longtemps, j'étais un peu dans l'outrage là-dessus, en disant, ouais, machin. Mais je trouve qu'à un moment, il faut qu'on fasse attention. parce que avoir des mots de ce côté-là, avoir des mots de l'autre côté font qu'à un moment donné, on n'arrête pas de séparer les gens et on n'est pas dans une période où c'est très très intelligent de vouloir séparer les gens pas à tout bout de champ.
Abel,
est-ce que c'est efficace en fait sur tout ça?
À la question, est-ce que la manifestation a dérapé? Non, il y a eu des faits malheureux, peut-être des paroles malheureuses, mais la manifestation a été un succès. Et faut rappeler que c'est pour un combat contre le racisme, parce que Bali Bagayoko, qui n'a même pas commencé son mandat quand même, on va dire, a été est devenu une superstar française malgré lui, avec toutes les outrances que l'on a vues. Donc c'est triste qu'une journaliste se fasse frapper. Il y a des mots effectivement, mais c'est toujours comme ça. Il y a différentes personnalités. Quand tu parles de Jean-Luc Mélenchon, il a pris la parole peut-être 10 minutes maximum, et encore moins, peut-être 5 minutes sur. Tout l'événement qui a duré 3 ou 4 heures, donc il s'est vraiment mis en retrait. Il a laissé, bah oui, il s'est vraiment mis en retrait et il a eu vraiment, il a eu des mots très républicains. Pareil, je note toujours que l'on ne note pas quand la Marseillaise a été chantée sur la place, on ne le dit jamais. Donc moi, je suis désolé. Les événements malheureux qui ont eu lieu, ils ne devaient pas se manifester, ils ne devaient pas avoir lieu, certes, mais la manifestation a été un succès pour ma part.
Amara.
Oui, c'était très croustillant de voir le Parti Socialiste et SOS Racisme tellement content d'être là devant la Nouvelle France de Mélenchon, parce que au nom de l'antiracisme d'être présente et de se faire littéralement insulter par Ali Djouara, qui leur dit alors bande de gauche caviar, ce qui est vrai en soi, mais moi ça me fait tellement rire quand c'est tes propres alliés pour qui tu t'es vendu, qui viennent te cracher à la figure, bande de gauche caviar, ressaisissez-vous ou dégagez, maintenant on arrive, on est là, vous allez dégager. Et les autres devant qui sont là à clapoter des mains, notamment SOS Racisme, qui est toujours prompte aussi à rejoindre les plaintes des députés LFI, parce que quand un député LFI porte plainte contre vous, il y a SOS Racisme qui vient avec en même temps. Eh ben c'est bien, SOS Racisme se fait cracher dessus, on leur promet même plus ou moins à la guillotine, hein, mmh, à tous ces tout blancs, tout moches de la gauche caviar. Mais c'est pas grave, hein, c'est vraiment la politique des montagnards. Il faut vraiment qu'ils relisent un petit bouquin sur Robespierre et Saint-Just. Ils vont voir le sort qui va leur être
la
leur
révolution,
être rendu.
Parce que c'est le dicton, la révolution dévore toujours ses enfants.
Ses enfants, et surtout Saint-Just, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Donc là, c'est pas de liberté pour les ennemis de l'antiracisme. Alors l'antiracisme, incarné bien sûr par le parti de la LFI, qui fonctionne depuis plusieurs années maintenant sur un principe de base qui est le racialisme. C'est-à-dire on trie les gens en fonction de leur couleur de peau. Donc il y a les racisés et tout le reste. Dans les racisés, il y a des blancs d'ailleurs, parce que excusez-moi, mais moi, pour moi, les gens du Maghreb, les gens d'Afrique du Nord sont blancs, me semble-t-il, puisqu'il est question de couleur de peau. Hein. Alors non, ils sont dans les racisés parce qu'ils sont victimes donc du fameux racisme systémique. Les personnes asiatiques, par contre, ça n'a aucun intérêt pour eux, hein, pour les gens de la LFI. Ce qui les intéresse surtout, donc, c'est, comme le dit Madame Abomangoli, c'est les Noirs et les Arabes. Il n'y a que ça qui compte pour ces gens-là. En outre, je crois que la LFI est un parti, comme l'a dit Raphaël Enthoven et comme la justice l'a autorisé à le dire, passionnément antisémite, et qui, par ailleurs, véhicule en permanence le racisme anti-blanc, comme Monsieur Mélenchon nous l'a expliqué, puisque lui nous dit maintenant qu'il est un maghrébin de France, Monsieur Mélenchon. Donc il nous a expliqué qu'on est tout blanc tout moche, puisque apparemment il fait une relecture lui-même de l'histoire d'Homo sapiens, ce qui est intéressant puisque il déforme les propos qui ont été tenus par Jean Dorido sur CNews pour venir dire que Jean Dorido a dit de Monsieur Bagayoko qu'il était un grand singe, ce que Monsieur Dorido n'a jamais dit. Il a dit nous sommes tous des grands singes. Nous sommes tous des grands singes. Et oui, nous sommes tous des grands singes, quelle que soit notre couleur de peau. Donc, ces gens-là, qui se sont mis hier sur la scène, c'est les racistes, c'est les racialistes, et c'est eux les véritables antisémites. Donc, moi, je n'ai aucun problème à voir l'antiracisme, encore une fois, complètement vidé de sa substance. C'est bien triste, c'est comme l'antifascisme. Ils l'ont vidé de sa substance. Eh bien, qui continue comme ça en 2027, ça va être plus simple.
Alors, chère Barbara, on va commencer par le point d'SOS Racisme. Tu sais à quel point sur le terrain cette structure est considérée comme une arnaque.
Ah oui.
Tu le sais très bien. Tu vois? Ah ben bah oui, mais
c'est
non.
C'est pas
mais...
une arnaque quand ils viennent à la 17e chambre avec les LFI. La LFI est contente.
Attends, tu sais très bien parce que l'espoir que ça a suscité dans les années 80, et en fait, on a utilisé les Arabes et les Noirs pour être le marchepied de François Mitterrand pour qu'il soit réélu et la main, et ça a été une grosse déception, et aujourd'hui les jeunes ne se réclament pas de SOS racisme du tout. Je parle pas des équipes actuelles, je ne le connais pas, moi je parle que historiquement SOS racisme ne représente pas tous les Noirs, tous les Arabes, et tu le sais très bien. Peut-être que M. Sopo travaille, je ne dis pas qu'il sert à rien, mais il y a ce rejet qui est très important. Maintenant, je le redis, Bali Bagayoko, tu as parlé du terme racisé. Lui, il a dit à plusieurs reprises qu'il n'aimait pas ce terme. Maintenant, tu parles du fait que le terme homo sapiens a été utilisé. Effectivement, beaucoup ont pu dire, bah oui, nous le sommes tous. Pourquoi ce terme n'est pas utilisé, puisqu'on accuse Jean-Luc Mélenchon de jouer sur les mots avec le terme de Nouvelle France? Pourquoi le terme homo sapiens n'est pas utilisé pour d'autres politiques? Pourquoi à Serge Dassault, on n'a pas posé la question, monsieur Dassault, par qui êtes-vous tenu? Parce que lui, qui a joué avec le clientélisme dans le 91, qui a travaillé avec les narcotrafiquants et qui a tellement déstabilisé Corbeil-Essonne que quand il en est mort, aujourd'hui, l'Essonne a du mal à s'en remettre parce qu'il a fait des trucs très sales et tu le sais très bien. Qui, sur un plateau télé, aurait osé demander, monsieur Dassault, par qui êtes-vous tenu? Alors que c'est documenté, ça a été témoigné que c'est un grand clientéliste. Jean-Christophe Lagarde, tu l'as cité plusieurs fois.
Il y a un livre qui est sorti là-dessus.
Non, mais quel journaliste, quel journaliste est venu comme ça demander à Jean-Christophe Lagarde au lendemain d'une élection, monsieur Lagarde, par qui êtes-vous tenu?
Tu liras le livre d'Ève Cheptel. Il lui a fait mille et un procès.
C'est pas ça que je dis, mais j'ai pas dit ça. Qui en plateau télé est venu lui demander comme ça?
Il vient même plus dans les médias à cause de ça.
Oui, mais désolé, il n'a pas été attaqué aussi frontalement. Donc moi, ce que je retiens de ce rassemblement, au-delà de LFI, au-delà des remarques, au-delà des choses malheureuses qui se sont manifestées, c'est que quand même il y a des gens qui étaient fiers de cela. Et je pense notamment à une certaine génération qui ont aujourd'hui entre 65 et 80 ans.
Ouais. Je suis d'accord.
Oui, vas-y.
Mais est-ce que la lutte contre le racisme qui est nécessaire, est-ce que tu n'as pas l'impression quand même qu'elle est instrumentalisée par la France insoumise qui récupère ça un peu cyniquement, parce que Jean-Luc est quand même un cynique, on le voit bien, hein, puisqu'il est quand même sur beaucoup de points, il a beaucoup évolué, sans doute pour des raisons électorales. Est-ce qu'il faut laisser la lutte contre le racisme à Jean-Luc Mélenchon et à la France insoumise? C'est ça la question.
Alors,
en fait.
Question,
parce que je pense que les gens qui était sincèrement rassemblé à Saint-Denis risque d'être très déçu, parce que quand Jean-Luc Mélenchon voudra passer à autre chose parce qu'il n'en aura plus besoin pour un marchepied électoral, ceux qui se disent victimes du racisme seront toujours
là. T'as pas vu les images
Je pense que les gens étaient sincères.
Oui,
je pense que malheureusement ils étaient à un meeting de la France insoumise.
T'as vu les images ou pas? C'était pas la Nouvelle France dans la rue. Au principal. Regarde juste la photo derrière Alain, tu vas regarder. Moi, j'ai tous mes potes qui étaient là-bas.
C'est les électeurs de.
T'as pas mal d'anciens, t'as beaucoup de militants, principalement. Oui, et quand tu regardes là, j'ai beaucoup de cheveux blancs. En fait, la Nouvelle France, c'est pas ça.
Je sais pas ce que ça veut dire, Nouvelle France.
Non plus.
La France.
Mais tu as posé. Il y avait des gens de Sud.
Non, je dis simplement.
Les
gens qui sont victimes de racisme.
L'opposition, d'ailleurs.
Alors peut-être, en plus, tu dis qu'ils étaient même pas là. Donc ceux qui sont vraiment victimes de racisme, je pense qu'ils se font. Ils peuvent se faire instrumentaliser pour simplement des raisons bassement politiques par la France insoumise qui a un agenda précis.
Mais tous les partis politiques ont des agendas. On va pas être. Mais tu as posé la question, est-ce qu'il faut laisser en gros le combat antiraciste à LFI? Moi, je te rétorque une autre question. Que font les autres?
Exactement.
C'est ça la question. Que font les autres? Pourquoi est-ce que dans les partis politiques, quand tu es arabe, quand tu es noir, c'est compliqué de monter? C'est ça la question. Et même, je vais casser un tabou.
France insoumise.
L'hypocrisie de la gauche, je le sais.
Et Bagayoko, il était communiste au départ. Il a été récupéré par la France insoumise. Laisse-moi casser un tabou.
Tu sais, je vais pas dire dans quel parti j'ai participé. En tant que militant à une campagne présidentielle en 2017. C'était un parti plutôt de l'autre côté. Alors que on parle république, tu sais ce qu'on dit aux gens à l'intérieur? T'es noir, va chercher l'électorat noir. On élit même des têtes de réseau noir. C'est pour dire qu'il n'y a pas qu'LFI. Ils le font tous, Olivier. T'es arabe, va chercher l'électorat arabe. T'es asiatique, va chercher l'électorat asiatique.
Vous faites pas instrumentaliser.
Amadou
qui nous appelle de Reims, de la Marne. Bonjour Amadou, commercial. Bonjour.
Oui, bienvenue. Bonjour l'équipe, vous allez bien?
Ça va, Amadou. Qu'est-ce que vous pensez de ce rassemblement? C'était une instrumentalisation? Il était utile, dites-moi.
Oui, bon, déjà, je voudrais saluer Abel, que, en fait, avec qui je discute souvent, en fait, sur Instagram, on échange beaucoup, je pense qu'il me reconnaît. Oui. On parle souvent de sa lutte, justement, pour les violences contre les enfants. Et franchement, je voudrais saluer tout le combat qu'il fait et tout ce qu'il apporte dans le débat. Donc, je voudrais te saluer, Abel.
Et, merci beaucoup.
Et en fait, ce que je voudrais dire, c'est Olivier, en fait, a parlé du fait que pourquoi on devrait laisser la lutte antiraciste à la France insoumise. Mais ça, c'est une bonne question déjà. Parce que moi, ce que je voudrais dire, c'est où sont les autres Macron, où est-ce qu'il est Macron? Ou que fait Macron? Et pourquoi il ne réagit pas? Actuellement, je me rappelle.
Pardon, mais je vous donner concrètement sur cette histoire de Bali Bagayoko. Je rappellerai que le parquet de Paris a ouvert une enquête. Je rappellerai que Sébastien Lecornu, que Laurent Nunez ont dénoncé ses propos.
Attends, Olivier. Je me rappelle un truc. Quand Éric Zemmour il se fait insulter dans la rue. On se rappelle de cette vidéo-là, vous en avez même parlé.
Oui, complètement, on en a discuté.
Ça fait des années que je vous écoute. Je me rappelle très bien, Emmanuel Macron a appelé Éric Zemmour pendant 45 minutes. Pendant 45 minutes, il a parlé avec Éric Zemmour. Éric Zemmour s'en est même vanté sur le plateau de l'émission qu'il présentait avant avec Christine Kelly sur CNews en disant qu'il a eu Emmanuel Macron pendant 45 minutes. Pourquoi Emmanuel Macron n'appelle pas Ali Bagayoko? Il a
posé la question à Emmanuel Macron lui-même, oui.
Oui, mais j'ai pas le numéro d'Élysée. Mais vous êtes journaliste, mais pourquoi vous posez la question, pourquoi on laisse la lutte antiraciste?
Je dis quand même que le chef de gouvernement a réagi et que le ministre de l'Intérieur a réagi, c'est déjà pas mal.
Oui, mais en fait, souvent, l'absence de réponse est une réponse en elle-même. Et je pense que Emmanuel Macron, il est très gêné par rapport à ça. Il ne réagit pas. Et quand vous parlez tout à l'heure aussi de la marche contre, plutôt la manifestation contre le racisme, moi, il y a un truc que je voudrais dire, c'est, en fait, ça ne concerne pas que Bali Bakayoko. Cette affaire ne concerne pas que lui, ça ne concerne pas que Ali Diawara aussi. Ça concerne, en fait, à partir du moment où vous êtes noir et que vous êtes dans l'espace public, je pense à Aya Nakamura, les insultes racistes qu'elle a subies une fois qu'on a cité son nom pour chanter au JO. Je pense à Black M, je pense à l'équipe de France de football. Moi, je vous invite, à chaque fois, je vous dis la même chose.
Hein. Mbappé qui s'est fait traiter de singe parce qu'il a loupé un pénalty.
Voilà, on est d'accord, mais c'est pour ça que je dis que la lutte contre le racisme est une chose très importante. Attention de ne pas être instrumentalisé politiquement. On est à un an de la présidentielle. Moi, sincèrement, hier, je n'ai pas vu un rassemblement, j'ai vu un meeting. Des prises de parole.
Est-ce que tu as vraiment vu l'événement? Tu as regardé le live pendant tout le temps?
J'ai vu un meeting. J'avais l'impression d'être un meeting de Jean-Luc Mélenchon.
Mélenchon est resté très en retrait, c'est pas vrai.
Vous avez parlé de la journaliste de BFM qui a été poussée. Il y a aussi le journaliste de Frontières qui s'est fait jeter. Faut juste rappeler. Moi, je suis désolée, ils ont des cartes de journalistes. Faut juste rappeler ce qu'a dit Monsieur Mélenchon sur les journalistes de Frontières. Il a dit que c'était des rats crevés et que quand on peut, on les capture. Et s'ils vous tapent, légitime défense. Ces gens-là, quand vous les mettez au pouvoir quelque part, c'est la répression. Monsieur Bali Bakayoko a bien dit, les agents municipaux qui ne suivront pas ma ligne politique, ils dégagent. Donc, c'est des gens qui sont dans l'exclusion.
Il a été rappelé par le ministre de l'Intérieur.
Mais ça lui fait une belle jambe apparemment parce qu'il continue.
Trois semaines qu'il est élu, c'est comme s'il avait changé le
Dans un instant, avec les GG, merci à Madou d'avoir été avec nous, on va regarder les tickets restaurants, ils vont être autorisés le dimanche. Maintenant, du coup, les restaurants font la gueule, mais c'est une mesure qui coûte pas grand chose au gouvernement et qui est faite pour pouvoir d'achat. Ben, vous venez en discuter avec nous au 32-16.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules. RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Les GG les grandes gueules, 21e saison sur la radio RMC. Entre-temps, il y a eu la télé qui est arrivée sur RMC Story, le canal 23 de la TNT, la radio RMC, la télé RMC Story, la chaîne YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Nous vivons partout avec les grandes gueules, avec les GG aujourd'hui, avec Bruno Poncé, l'homme de Vierzon. Nous sommes
fiers de lui, regardez.
Moi, je suis fier.
Abel Bouilly, l'éducateur, et Barbara Lefebvre, l'enseignante en histoire géographie. Il est 10h25. Je propose qu'on s'intéresse au Tiki Restaurant. Ouais. Serge Papin, l'ancien patron de Super U, devenu depuis ministre, notamment du commerce et de l'artisanat. Monsieur Papin nous assure que nous allons pouvoir, les salariés, utiliser les titres restaurants le dimanche.
Oui, le dimanche, et il veut aussi pérenniser l'usage du ticket restaurant en grande surface. On peut le faire, il y a une dérogation qui a été décidée en 2022, mais là, il veut pérenniser donc à la fois le ticket restaurant, on pourra le dimanche faire ses courses avec, et on pourra aller en grande surface. Alors bien sûr, la restauration traditionnelle est vent debout, parce que le ticket restaurant, par définition, ça a été inventé pourquoi ? C'était inventé pour les salariés qui n'ont pas de cantine dans leur boîte, et donc grâce au ticket, ces salariés pouvaient aller au restaurant. Et puis maintenant, ce ticket restaurant est devenu finalement un ticket alimentaire, c'est-à-dire qu'on peut aller acheter, faire ses courses, acheter, je sais pas, une salade, des pâtes, etc. au supermarché. Et maintenant, même le dimanche, donc pendant ton jour de repos. D'ailleurs, certains disent qu'on devrait plus appeler ça ticket restaurant, mais ticket alimentaire. Certains même accusent Serge Papin de faire un cadeau à la grande distribution, puisqu'il vient à la grande distribution. Il s'en défend et dit que c'est simplement pour permettre aux Français d'utiliser en ces temps difficiles pour le pouvoir d'achat ce moyen de paiement, sachant qu'il y a de plus en plus de Français qui désormais ne vont plus au restaurant mais télétravail, etc. Et donc les modes ont évolué. Alors est-ce qu'il a raison de faire ça ?
Alors c'est vrai que ça donne du pouvoir d'achat, ça coûte pas grand chose au gouvernement, ça non. Évite de faire un chèque, bien évidemment. Donc
mais la grande distribution captait fin 2024 déjà 31,5% des dépenses en titres restaurants et pour les restaurants traditionnels c'est 39%. Donc la grande distribution est en train de dépasser les restaurants.
Si tu veux, tu sais à combien il est estimé le marché des tickets restaurants globalement ? Globalement ?
C'est énorme.
Vous avez eu un ordre d'idée ou pas ?
De quoi ?
Le marché global du titre restaurant. Non. Parce que ticket restaurant c'est une marque.
Oui,
mais du titre restaurant. Vous savez combien ? 10 milliards.
Eh oui.
Donc si tu veux, c'est quand même une manne. Mm-hmm. Je comprends, hein, les restaurateurs, ils disent, écoutez, il y a marqué restaurant, donc c'est quand même pour nous.
Ah ouais.
Et puis la grande distribution se dit, c'est pas mal d'essayer d'en récupérer. Donc c'est une vraie manne financière. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Bruno Poncé ?
Ah, moi, j'en dis, c'est un dévoiement du comme tu dis. Avant, ça s'appelait Ticket Restaurant, maintenant, ça a changé de nom, mais en fait, c'est un dévoiement. Après, il faut quand même se rendre compte qu'avec un ticket restaurant journalier de 10 euros, tu manges quasiment nulle part. Tu peux peut-être manger dans un bouillon un plat, et je crois que ça va pas aller plus loin, hein, 10 balles. Hein. Parce qu'en fait, 10 balles, donc en fait, les gens, pour eux, ce qu'ils voient, et dans un moment où les entreprises n'augmentent pas les salaires à la hauteur de l'inflation, la plupart des entreprises ne le font pas, donc ce qui fait que les gens, en fait, ils se rabattent là-dessus pour faire leurs courses. Donc, on est vraiment sur un problème d'inflation et aussi, de quelque part, de problème de salaire et de pouvoir d'achat, c'est cette année qu'on en parle. Et le sujet, il est là, et le sujet est que quand tu payes... Aujourd'hui, en France, on a les salaires assez bas, et en fait, c'est sûr, hein, les gens te disent tous, oui, très peu de personnes travaillent au SMIC. Oui, mais t'as tellement de gens qui ont des contrats précaires à moins de 100% de temps de travail. Forcément que tes 10 euros qu'on va te donner par jour, tu les accumules sur 3-4 jours et à la fin, tu fais des courses avec, en fait. Et c'est vrai que c'était pas fait pour ça au début. Mais au début, avec ton ticket restaurant à l'époque, tu pouvais... Je dis pas que t'allais manger, mais avec 40-50 francs, il y a quelques années, t'allais manger. Aujourd'hui, avec tes 10 euros, tu manges où ? Moi, après, on peut me raconter partout que tu manges avec 10 euros. Moi, je suis un pur parisien dans ma vie perso. Je peux te garantir que, à part des quelques bouillons où tu peux avoir un plat entre 8 ou 10.
T'achètes un sandwich, tartelette et
c'est vrai que je comprends.
Mais sandwich, tartelette, soda, les restaurateurs disent largement les 10 euros.
Moi, je peux le comprendre. Moi, je pourrais même entendre les restaurateurs qui disent je veux plus de ticket restaurant chez moi. Mais dans ce cas-là, on appelle un
salaire. Certains restaurateurs disent dans ce cas-là, on va plus accepter.
Ça peut se comprendre, en fait. Mais après, il faudra plus appeler ça ticket restaurant, il faudra appeler ça ticket pouvoir d'achat.
Ouais, mais c'est un ensemble. C'est-à-dire qu'on est en train toujours de s'enfoncer vers une précarisation, une paupérisation du pays. Le ticket restaurant, quand même, philosophiquement, c'est dans un cadre particulier, ouais, c'est-à-dire tu bosses, tu vas bouffer au restaurant à midi. Maintenant, tu as ton ticket restaurant, tu peux aller faire tes courses à la supérette ou au supermarché. Donc le pays est en train de se déliter. Tu parlais des salaires qui étaient trop bas, mais les salaires sont trop bas.
L'impression que c'est des bons alimentaires.
Ben oui,
maintenant.
Ben, autant les appeler les tickets restaurants du cœur, tant qu'à faire. Ouais, donc ouais, voilà. Pourquoi les salaires sont trop bas? Parce que les charges sont trop élevées, parce que les entrepreneurs étouffent. Donc c'est toujours le chien qui se mord la queue. Et quelle est la prochaine chose sur laquelle on va rogner? Et surtout l'idée que ça donne, c'est quoi? Ben il y a un peu d'État providence aussi dans tout ça.
Là, c'est l'État nounou là.
Voilà, c'est
on va
toujours
vous aider à manger.
De l'État nounou. C'est-à-dire que l'État devient nounou même là où les Français ne le demandent pas. Alors oui, une personne qui est dans la précarité va dire merci. Mon but n'est pas de cracher sur les gens qui galèrent à la fin du mois. D'ailleurs, même dès le début du mois aujourd'hui. Mais c'est pas bon. On va emmener les Français vers quelle mentalité en réalité? On va devenir un pays de losers en fait. On va plus vouloir.
On va devenir.
Mais oui.
Non mais pourquoi je sais pas pourquoi tu mets ça au futur.
On ne va plus vouloir entreprendre. On ne va plus vouloir être innovant. On ne va plus vouloir même proposer des idées. On va toujours regarder vers le haut comme ça. Oh et l'État, j'ouvre ma bouche, envoie-moi le pain. C'est quelque chose d'extrêmement dangereux. C'est pas bon pour l'image de la France et c'est pas bon pour la mentalité des Français. Qu'est-ce qu'on va dire aux jeunes? Ben comme Mourad, cassez-vous de ce pays. Il a raison de dire ça. Il a raison.
Ouais. Barbara, et puis ensuite on ira du côté de Toulouse.
Après, ceux qui vont en bénéficier sont contents.
Il y a 175 000 restaurants en France. Il y a 175 000 restaurants en France. Donc déjà, il y en a 25 qui ferment chaque jour, d'accord. Mais enfin, il y en a d'autres qui ouvrent. Hein. Moi, je vois partout, à chaque fois que je me balade, il y a toujours un restaurant qui va ouvrir et un autre qui ferme. Et parfois, ceux qui ouvrent, c'est souvent soit des toutes petites brasseries, soit de la restauration rapide.
Bref,
des croustilles.
Donc, quand j'entends les restaurateurs venir pleurer sur leur situation, ça, là, sur la question des charges. Ça, on est d'accord, il n'y a pas que les restaurateurs. Les charges sont beaucoup trop élevées sur les entrepreneurs en règle générale. Enfin, les restaurateurs répercutent quand même très lourdement, on va dire, hein, les prix aux consommateurs. Moi, je suis navrée.
Tu trouves les restaurants trop chers?
Non, mais moi, je ne vais plus au restaurant que pour des événements. C'est-à-dire que si vraiment il y a un anniversaire ou quelque chose, j'accepte d'aller au restaurant, de payer ce qu'il faut, etc. Mais le resto plaisir...
Et encore, tu prends que l'entrée. Tu prends encore, que la salade.
Ouais. Et pour la carafe d'eau, voilà, qui est gratuite. Mais le resto plaisir, le resto sympa pour sortir, je n'y vais plus. Parce que déjà, je trouve que ce que j'ai dans mon assiette, c'est pas du tout à la hauteur du prix. Franchement, on se fout du monde. Aujourd'hui, les prix, c'est tout de suite 20 euros. Et quand tu vois ce qui t'arrive, je suis désolée, c'est pas à la hauteur. Donc, que les restaurateurs non plus ne s'étonnent pas, que le salarié, il évite le restaurant pour aller s'acheter à manger à la supérette, parce que de toute façon, bien souvent, la pasta box ou aller manger des pâtes dans un restaurant, c'est parfois pas loin d'être la même chose. Sauf que bien sûr, les pâtes, si elles sont correctement faites, elles seront moins pleines de produits chimiques. Mais par ailleurs, on voit bien aujourd'hui que les gens ont besoin de ce chèque alimentaire. Donc pourquoi est-ce qu'on l'autoriserait pas jusqu'au dimanche? Moi, je ne vois pas où est le problème. Ça m'ennuie parce que ça fait travailler.
Ça dit quelque chose.
Ça fait travailler l'industrie agroalimentaire, donc ça me gêne. Mais en même temps, je vois aussi que les restaurateurs ont abusé pendant longtemps au niveau des prix.
Peut-être qu'il y a des abus, mais enfin, ça dit quelque chose de notre pays. On est obligé qu'un ministre autorise les Français à utiliser leur ticket restaurant pour faire leurs courses le dimanche.
Un pays qui s'effondre.
Ça dit quand même de la précarisation de ce pays. Ça dit quelque chose de notre pouvoir d'achat. Alors, bien sûr, ceux qui vont en bénéficier seront contents le dimanche d'aller faire leurs courses. Mais on a besoin de ça.
On est incapable
de penser que les gens vont par leur travail réussir à être augmentés, à bien gagner leur vie, qu'on est obligé de trouver des pis-allers.
Non, mais Olivier, c'est pas des grosses courses, hein. C'est 25 euros par jour que t'as le droit, avec tes tickets restaurants. Donc, en fait, les gens
mais c'est de l'appoint.
Mais déjà, les commerces devraient pas être ouverts le week-end, les supermarchés, ça devrait pas.
Oui, mais justement, comme tu dis, 25 euros, les gens, ils vont mal manger. Ils vont acheter les petits sandwichs en triangle à 2-3 euros qui sont industriels. La baguette à 30 centimes qui a de goût de métal. Enfin, tu vois, je caricature, mais là, ça va encourager la malbouffe industrielle supermarchés.
Monsieur Fillon, en son temps, quand il était Premier ministre, en 2007, avait dit « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Hein, à l'époque, la dette, c'était 98% du PIB. Et Sarkozy avait augmenté la dette de 600 milliards. Alors, imaginez-vous dans quel état est la France aujourd'hui? C'est-à-dire, pour un vrai économiste qui regarde la France en face, la situation, elle est pire que calamiteuse. C'est-à-dire que les Français continuent à être sous perfusion de morphine, de tramadol, de tout ce que tu veux, pour pas voir la réalité. Si en 2027, moi je l'avais dit ici, hein, je suis pas une ultralibérale, loin de là, mais La seule chose qui remettra la France d'aplomb maintenant, c'est Milei. C'est un Milei à la française.
La tronçonneuse.
Mais bien sûr que c'est ça qu'il faut. Ouais, parce que là, maintenant, c'est trop tard. Mais c'est trop tard.
Alors,
c'est trop tard. C'est la faute de Macron. Et c'est la faute des Français qui l'ont réélu en 2022 et qui maintenant viennent lui cracher dessus. Eh ben, je suis désolé. Vous l'avez réélu. Voilà où on en est.
Vous l'avez voulu. Pour tout vous dire, cette histoire des titres restaurants, des tickets resto utilisables le dimanche, et dans toutes les grandes surfaces, enfin, ça fait réagir, ça met le feu au 32-16. Donc, dans un instant, on a Romain qui sera avec nous du côté de la Haute-Garonne. Il est vendeur auto. On sera avec Jérôme, technicien audiovisuel. Je sais qu'il y a des restaurateurs qui sont en train de nous appeler parce que, du coup, c'est une dérive. Le titre restaurant part du restaurant vers les supermarchés.
Exactement.
Les restaurateurs et les bistrots de quartier qui ont déjà du mal, puisqu'on voit de plus en plus de gens en télétravail. Le vendredi, il y a de moins en moins de gens qui sont au boulot. Donc c'est tout un secteur et qui emploie des centaines de milliers de personnes. Tout un secteur qui va trinquer, sans mauvais jeu de mots. Il est 11h-25. Venez continuer d'en parler avec nous au 32-16 en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
Allez, on vous donne la parole sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. On donne la parole à Romain pour parler des tickets restaurants. Bonjour Romain.
Oui, bonjour les grands.
Qu'est-ce que vous en dites, Romain, alors qu'on puisse les utiliser maintenant le dimanche notamment? Dites-moi.
Non, mais sur le principe, après, je peux comprendre que les restaurateurs, ça leur fasse mal, c'est sûr, qu'on puisse les passer maintenant le dimanche. Sur le principe, moi, ça me posait pas de problème de pas pouvoir les utiliser le dimanche aux courses. Je m'organisais, du coup, quand j'avais besoin de faire des courses et que je voulais passer ma carte ticket restaurant.
Justement, comment vous les utilisez? Quelle est l'utilisation, à vous, de vos tickets restaurants, alors?
Ben, en fait, moi, je suis commercial automobile. Et du coup, moi, souvent, le restaurant, ça va être le midi. Le midi, on va aller faire un restaurant une fois par semaine ou une fois de temps en temps. Et c'est pour ça que je suis intervenu, en fait, parce que, en fait, je trouve que il y avait eu une intervention d'un restaurateur qui était passé sur votre plateau, je crois, ou chez Apolline, je sais plus, mais que j'avais trouvé hyper intéressante, parce qu'en fait, il disait sur le principe, avec les problèmes de pouvoir d'achat qu'ont les gens en ce moment, je comprenne pas qu'on vienne les embêter avec la possibilité de passer leur carte ticket resto au centre commercial, enfin, pour aller faire leurs courses. Et il disait, par contre, à côté de ça, je comprends pas quand on ne déplafonne pas les cartes tickets restaurants sur le montant qu'on pouvait passer au restaurant. Par exemple, moi, vous voyez, j'ai une carte ticket restaurant sur laquelle j'ai beaucoup de crédits dessus, parce que je l'ai pas utilisée pendant longtemps, j'ai mis longtemps à la recevoir. Et
vous avez combien, du coup?
Là, je crois que j'ai plus de 600 euros sur ma carte ticket.
Ah oui, pas mal, dis donc.
C'est énorme. Ouais, ce qui est énorme.
Ah, mais c'est 25 euros par jour, donc ça va falloir du temps pour l'écluser, vos 600 balles.
Et c'est ça. Et c'est pour ça que je comprends pas qu'on puisse pas aller dans un restaurant si j'ai envie de me faire vraiment plaisir, de payer un restaurant à 300, 400 euros à quelqu'un si ça me fait plaisir, que je puisse pas aller dans un restaurant et dépenser la totalité. Voilà. Donc, je comprends pas
pourquoi vous puissiez l'utiliser comme vous voulez, quoi.
Ça, c'est parce que tout est très réglementé.
Alors, Romain, on va en parler avec Jérôme, qui est du côté de Lyon, qui est technicien audiovisuel. Bonjour, Jérôme.
Bonjour à tous, bonjour les grandes gueules.
Vous avez entendu Romain, lui, bon voilà, il a réussi à cumuler dessus. Lui, ce qu'il aimerait, c'est pouvoir en disposer quand il veut, quoi, en fait. Qu'est-ce que vous en dites, vous, Jérôme, alors?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord comment on peut s'en servir. Moi, j'ai un peu le problème de Romain, puisque dans l'audiovisuel, on travaille souvent le dimanche et les week-ends.
Oui.
Puisque souvent, la convention d'une grande entreprise démarre lundi matin, mais il faut bien tout installer le week-end. Et deuxième point aussi, c'est que le gros souci, aujourd'hui, on est dans une période où on cherche un peu les sous. Et le concept même du ticket restaurant, il y a de l'argent qui s'en va. Faut payer vos tickets, faut payer vos serveurs, faut payer vos cartes bleues. Oui. Et en fait, avant, quand j'ai commencé à bosser, avant 2000, on avait des primes de panier. C'était net d'impôts, c'était versé par l'entreprise, c'était tout en bas de la fiche de paye. Et il y avait, l'entreprise, ça lui coûtait 15, 20 balles, et alors on était en francs. Et on avait 15, 20 euros. Et au milieu, il n'y avait pas des gens qui se servaient dans tous les sens. Et ça, en fait, je pense que c'est pas aux salariés à comment dire, à aider un secteur comme la restauration qui va mal à cause de l'État. C'est... Voilà.
Mais là, vous, vos tickets resto, vous les utilisez comment, Jérôme?
Moi, essentiellement, je les utilise, je vais vous dire, dans les grandes surfaces. Parce qu'on a pareil du mal à les passer. Surtout que ce système est encore plus pervers, puisque de l'argent qui n'est pas périssable, ils ont créé des tickets avec une date de validité.
Ben oui.
Donc déjà, je dis, mais d'où on me dit que mon argent, il est plus valable. Donc s'il est plus valable, il est plus valable pour moi, mais il est valable pour quelqu'un. Il y a quelqu'un au milieu qui le garde.
Oui, oui.
Mais oui, non, pareil mais pour les cartes bleues. La carte bleue a une date de validité, on vous dit, il faut la vider avant qu'elle soit expirée. Mais... Donc, non, voilà.
Vous avez pas tort.
On sent quand même l'escroquerie au milieu là dans tout ça. Hein.
Mais c'est ce que je disais. C'est en plus un marché à 10 milliards d'euros qui est abondé en plus par les employeurs, hein, les tickets restaurants.
Est-ce qu'on pourrait pas?
C'est ça. C'est quand même l'employeur. Alors l'employeur ici surtout parce que ça évite peut-être d'augmenter, de donner du salaire en plus.
Oui, c'est ça.
Salaire qui est chargé hein, si tu le donnes en plus hein, de toute manière.
Dans le cadre, d'une.
Allez-y, Romain, Jérôme, pardon.
On sait faire une prime nette d'impôt sur la feuille d'impôt. On est capable de le faire. On le faisait avant.
Oui.
Alors, bien sûr, on peut dire, oui, c'était mieux avant. L'éternel, c'était mieux avant. Mais quand même, on peut quand même se dire que tout progrès n'est pas bon à prendre. Et, quand
on a inventé quand même une usine à gaz avec tout ça.
On pourrait peut-être songer, en même temps qu'une grande réforme de l'amenuisement des charges sur les salaires, ben, on pourrait peut-être songer à arrêter ce machin. Encore ce bidule-là, on arrête les petits restos, finito. On redonne du pouvoir d'achat aux salariés sur leur feuille de paye. C'est-à-dire qu'on remet,
avec leur salaire,
on rapproche un peu plus, si possible, au maximum, le salaire brut du salaire net. Et là, tout ira bien. Les gens n'auront pas besoin d'aller dépenser leur ticket resto et on arrête avec les tickets resto.
Les charges des entreprises, l'État ne veut pas faire.
Sèchement, et ça va relancer
Ça sera, à mon avis, l'un des grands sujets de 2027, c'est comment rapprocher le net du brut.
Oui, ça va être surtout la grande foire aux promesses. Alors, et toujours plus en travaillant moins sur tous les tous les spectres hein, à part peut-être LR et Zemmour mais sinon tous les autres travaillons moins longtemps et je vous donnerai du pouvoir d'achat.
Ça dit quand même quelque chose de l'état du pouvoir d'achat des Français parce que le ministre fait cette annonce ce week-end, la loi elle est pas encore votée hein. Elle va être votée avant l'été. Donc au mieux c'est à la rentrée. Hein, c'est en septembre. Exactement. Et là tout le monde s'emballe, c'est génial, etc. Ça dit quelque chose quand même de notre société, c'est-à-dire que c'est mesurette, c'est simplement il ouvre le truc, mais il y a rien de révolutionnaire et ça devient la une de l'actualité. Oui, ça dit quelque chose quand même de notre pouvoir d'achat qui est en berne et qu'on cherche désespérément à grappiller quelques euros.
Aujourd'hui, on court après le moins de centimes. Alors, il y a une précarisation du peuple français et par rapport à 2027, on va voir quelle va être la vision économique des politiques. Est-ce qu'on continue en augmentant les impôts pour résorber la dette ou est-ce qu'on baisse enfin ces foutues charges d'entreprise? Est-ce qu'on passe la tronçonneuse, pour reprendre ton expression, dans ces agences de l'État? C'est bizarre, le sujet des agences, maintenant, fait passer ce sujet comme quelque chose limite de ridicule. Alors
oui,
que si,
rien,
je suis désolé, 140 milliards si tu prends les agences, les ODAC et les services décentralisés, 1200 agences, alors qu'en Royaume-Uni, ils en ont que 300 et ça leur coûte, entre guillemets, que 200 milliards. Et ils ont fait des économies drastiques depuis 2010. On peut pas réfléchir dessus. Il y a besoin d'avoir quatre agences de l'économie qui font les mêmes missions.
La liste des agences qu'elle devait supprimer.
On a un hôtelier restaurateur avec nous du côté de la Savoie. C'est Giuseppe qui est là. Bonjour Giuseppe.
Bonjour Gégé.
Et bienvenue. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, le restaurateur, alors?
Déjà, moi, ça me dérange pas que les gens puissent trouver un peu plus de pouvoir d'achat, même avec les tickets restaurants, hein. Même en tant que restaurateur. Je peux comprendre. Je veux dire, tout est super cher, donc ça me dérange pas. Personnellement, moi, j'ai décidé de ne pas les prendre du tout.
Pourquoi?
Les tickets restaurants. Parce qu'il y a des commissions là-dessus aussi. Je veux dire,
tout le monde se paye sur la bête.
Ah, oui. J'ai des commissions là-dessus. J'ai choisi aussi. J'ai fait un choix avec ma femme. On tient un hôtel, restaurant, bar à Montémon. On est proche d'une zone touristique, donc c'est plus facile pour nous de accepter les chèques vacances.
Les chèques vacances.
Que les tickets restaurants. Donc c'est un choix. Mais après, on va
les
dire.
Les chèques vacances. Il y a des coms dessus aussi.
Oui, il y a des coms aussi, mais j'en ai moins. C'est-à-dire que si je commence à prendre les tickets restaurants le midi pour quelques éventuels ouvriers qu'on peut avoir et les chèques vacances pour les quelques familles qui se déplacent, déjà j'ai plus de commissions. Après, il ne faut pas oublier que dans les coins ici, il y a encore les papiers, hein, c'est pas que des cartes, hein,
tout ça.
Et encore des papiers, donc ça veut dire que je dois faire un bordereau, un courrier recommandé que je dois envoyer à mes frais, attendre que ce soit traité, avant d'avoir l'argent dans ma trésorerie. Enfin, tout ça, nous gonfle. Hein. Donc, on fait des choix. Juste pour revenir à ce que disait tout à l'heure Barbara, pour qui j'ai beaucoup de respect, on n'est pas tous des restaurateurs à faire de la merde.
J'ai pas dit ça. Hein.
On entend souvent ce discours qui revient sur le restaurateur qui se gave. Aujourd'hui, on va au resto, on n'a pas ce qu'il
faut. Non, c'est pas ce qu'a dit Barbara. Barbara disait qu'elle trouvait qu'il y avait beaucoup trop de restaurants qui ouvraient aussi aujourd'hui.
Exactement.
Et que, malheureusement,
la qualité n'était
pas tout le temps au rendez-vous pour le prix qu'on payait.
Quand vous pouvez, quand vous pouvez mettre dans les 50, 70, 80 euros le menu, peut-être qu'effectivement, dans certains cas, vous allez avoir une certaine qualité, mais quand vous êtes dans la petite classe moyenne et que vous pouvez mettre 15, 20 max, vous avez énormément de propositions de restaurants, mais excusez-moi, la qualité, elle est vraiment pas là toujours à ces prix-là.
Nous, on est une petite maison qui avons fait le choix, puisqu'on peut pour le moment, de ne pas se payer, ne pas prendre de dividendes sur les premières années, donc de essayer de faire de la qualité. Moi, j'ai mon comptable qui revient au bout de 3 mois d'activité qui me dit, par contre, faites attention parce que je vois bien que vous faites pas de la merde, mais vous margez pas assez.
C'est quoi votre plat du jour? Il est à combien?
Quand j'ai un plat du jour, parce que le plat du jour, on peut pas toujours le faire dans le coin. Mmh. Encore une fois, c'est une zone touristique. Donc, pour avoir un plat du jour, il faut que ce soit rentable. Donc, on vend un maximum. Mmh. Et on peut pas le faire tous les jours. Mais quand j'ai des ouvriers, la formule du jour, elle est à 16 ou 17 euros en fonction des arrivages, entrée plat dessert.
Mmh. Entrée plat dessert, oui, c'est bien. C'est bien.
Et attendez. 16-17 euros entrée plat dessert, et on essaye de travailler au maximum avec le local, parce qu'on a de la chance d'être sur un vivier local qui est intéressant, de faire tous les jours de la cuisine, je sors pas une barquette et je la mets au micro-ondes ou au four, donc tout ça même dans le menu du jour, c'est pas toujours évident, et on marche pas toujours, et pour que ce soit intéressant, il faut de la masse, et la masse à midi dans une zone comme la mienne, elle n'y est pas toujours, c'est plus sur les périodes touristiques, où ça va être cet été où on va se faire cartonner. Et voilà, donc pour moi, prendre des tickets restaurants, gérer en plus le sujet tickets restaurants au quotidien, au-delà de tout l'administratif qu'on a, ça me gonfle aussi.
Ça me gonfle aussi.
Et encore une fois, on n'est pas tous là à essayer de marger un maximum sur des produits de mauvaise qualité.
Parce que
même si c'est pas ce que vous avez voulu dire directement, Barbara, le problème, c'est que c'est une occasion de plus pour certains de remuer le couteau là-dedans, comme si on était tous en train de faire que ça.
Non, bien sûr.
On roule pas sur l'or, mais malheureusement, il y a des gens qui vont pas l'interpréter comme.
Alors, Giuseppe, attendez, parce qu'il y a Bruno qui voulait réagir.
Tout à l'heure, Olivier, il a dit quelque chose, il a dit, cette mesure-là, on annonce ça ce week-end, et puis en fait, ça sera voté dans plusieurs mois. En fait, Olivier, t'as bien compris que comme là, ils arrivent pas à régler le problème de l'essence, et que là, ils sont en train de nous sortir un truc. Ils sont en train de nous sortir
du temps.
Parce qu'aujourd'hui, le sujet cas, et c'est le sujet que va rencontrer l'auditeur à l'instant, parce que.
C'est ce que je voulais dire, ne soyons pas dupes.
Voilà, je pense que le sujet qu'on a tous, c'est qu'aujourd'hui, là, en fait, si la guerre continue à durer et que le prix commence à monter, et puis on est quasiment tous sûrs que s'il monte, il va pas redescendre au prix où il était avant, ça, c'est un classique. Sachant qu'on vient d'entendre que Total avait fait des milliards de bénéfices dernièrement, en s'engraissant sur le dos de la bête.
Oui, mais Total justement, et Giuseppe, je voulais vous poser la question, et on y viendra tout à l'heure dans la dernière partie de l'émission, mais la répercussion de la hausse des carburants, justement, pour vous, comment ça se passe?
Pour le moment, ça se tient encore, mais moi, je vais voir là, après, parce que là, pour le moment, on a décidé de fermer 2 petites semaines, mais je pense que ça va se répercuter sur les frais de transport, sur les livraisons, on va le voir, ça va se répercuter quand on va être livré, surtout nous, on est à 1200 mètres d'altitude. Donc quand on va faire les commandes pour réouvrir, je pense qu'on verra nettement l'augmentation. Et même en étant le plus proche possible de la réalité avec les marges et de la cohérence, sans vouloir faire je sais pas quoi sur les prix, on peut toujours pas vendre un burger même si c'est du bon charolais fait maison machin, on peut pas le vendre à 30 balles, personne
va acheter
un burger à 30 balles.
Giuseppe,
c'est comme ça, c'est la réalité.
Merci de votre témoignage, Giuseppe. À Montalmont,
vous êtes ouvert aujourd'hui?
Hôtelier restaurateur
fermé.
Il va rouvrir.
On a pris vacances. Un tout petit peu de vacances parce que c'est un petit village fort charmant et qui est
Montalmont en Savoie.
Comme qu'il y a des périodes de creux, et là, pour le moment, on va reposer un petit peu et puis réouvrir le 13.
Là, pour le printemps. Merci, Giuseppe. À bientôt dans les GG. Merci de votre fidélité. On a posé la question. Voilà, autoriser les tickets resto le dimanche, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Est-ce que c'est utile ou pas? On va voir. Oui, enfin, à 64%. Eh oui. Allez, dans un instant, Patrick Cohen, invité des GG des Grandes Gueules. Et puis ensuite, on évoquera à 11h30 les carburants. On en est à 18% de stations là qui sont en rupture, qui sont en pénurie essentiellement. Donc maintenant, il faut les réapprovisionner. On a des gasoils qui sont montés au-delà des 2,50. Est-ce que ça veut dire que la perspective à 3 euros, finalement, elle va arriver? 32-16 pour venir en discuter avec les Grandes Gueules.
RMC, 9h midi. Les Grandes Gueules.